la coopération, et en particulier la coopération ouverte dont je vais parler aujourd'hui, c'est d'abord des changements de posture. Ça veut dire des attitudes qui favorisent la coopération. Donc je serai pas trop sur les outils, mais sur effectivement qu'est-ce qui amène les gens à coopérer, qu'est-ce qui facilite la coopération et d'où vient cette notion de coopération ouverte. Alors j'ai quatre parties dans la présentation. D'abord, essayer un peu de préciser ce qu'on entend par coopération ouverte. Ensuite, expliciter ces changements de posture dont je parlais et de donner quelques exemples de coopérer en acte et en terminant par coopérer face aux crises. Il faut juste que je m'habitue. Alors, d'où je parle là-dessus, je ne vais pas m'apesantir parce que ça a été largement présenté et peut-être un peu enjolivé. Et donc, vous retrouverez ici les liens. Alors, le diaporama que j'utilise, ça correspond à une conférence d'une heure. Donc, comme j'ai qu'une demi-heure, sur certains aspects, je vais aller un petit peu plus vite. Mais tout ce que vous voyez dans une couleur orange, ce sont des liens. Donc, le diaporama est bien sûr mis à disposition. Et donc, en cliquant sur les liens, vous pouvez aller un petit peu plus loin sur ces éléments. Et j'ai mis aussi dans le pad une page wiki que j'ai commencé à écrire avec un certain nombre de ressources qui sont issues de l'expérience qu'on a pu avoir sur la coopération et sur coopération et crise à travers les ripostes créatives. Et donc, vous avez une dizaine, une quinzaine d'articles qui permettent d'aller un petit peu plus loin et qui sont dans Riposte Créative Pédagogique avec le lien dans le pad. Alors, la coopération ouverte. Donc, il y aura un petit peu de trois petits volets. D'abord, numérique et coopération ouverte, les communs, et la compostabilité des idées. Alors, la coopération ouverte, la question un peu de cette ouverture au sens du partage des connaissances ou de faire des choses ensemble, mais que ce ne soit pas limité à un groupe de personnes, vient du monde du logiciel libre, en particulier d'Unix. Et ensuite, donc, ces questions-là ont été, je dirais, amplifiées par le travail qu'a mené Laurence Lessig sur des licences qui s'appellent les Creative Commons et qui permettent de faire en sorte que ce que vous écrivez, ce que vous décrivez, puisse être réutilisé par d'autres. Donc il y a toute une variété de licences et qui sont d'ailleurs ici utilisées dans la revue et qui ne sont malheureusement encore peu connues et peu pratiquées par les universités. À ma connaissance, il n'y a aucune université en France qui accepte que ces contenus soient partagés. Si vous allez sur le contenu d'une université, vous verrez en bas copyright, vous tapez sur mention légale, toute réutilisation peut conduire à des poursuites. Donc, cette notion de dire que si je fais des choses avec de l'argent public et que ces choses peuvent être utiles à tout le monde, dans la majorité des cas, ces choses sont interdites à être réutilisé. Donc ça, c'est la pratique, je dirais, quasi unanime des universités, quasi unanime des labos de recherche, quasi unanime des villes, départements et régions. Alors, il y a quelques exceptions, mais c'est de l'ordre de quelques pourcents. Donc là, on va s'intéresser justement à cette notion de coopération ouverte qui est un peu opposée à la notion de coopération fermée. Dans le temps limité, je n'aurai pas trop le temps d'aller le développer, mais là, il y a des articles qui sont cités et qui essayent un peu d'expliquer la différence entre la coopération altruiste, la coopération ouverte et la coopération esprit de clocher, où on coopère en groupe fermé. Et cette coopération est réservée, les fruits de la coopération ne sont réservés qu'aux personnes qui font partie de ce groupe. Ces notions en fait, de coopération ouverte sont aussi beaucoup développées avec l'innovation ouverte, l'innovation ascendante. Et derrière la coopération ouverte, comme derrière l'innovation ouverte, il y a l'idée d'horizontalité, c'est-à-dire qu'on privilégie les échanges entre les personnes plutôt qu'une organisation, je dirais, en silo ou pyramidale. Dans les choses les plus connues en coopération ouverte, vous avez bien sûr Wikipédia, qui est une coopération dans laquelle chacun peut contribuer et tout ce qui est produit peut être réutilisé partout, par n'importe qui. Autre exemple, les cartes ouvertes d'OpenStreetMap qui rejoignent effectivement ces possibilités. Et ce qui est remarquable, c'est que des productions comme Wikipédia, qui ont été fortement critiquées par le milieu universitaire en France à ses débuts, aujourd'hui, tout le monde reconnaît la pertinence des contenus sur Wikipédia. Et sur OpenStreetMap, juste pour la petite histoire, en Bretagne, depuis maintenant presque 15 ans, le fonds de carte du service commun géographique qui s'appelle Géo-Bretagne, qui regroupe l'ensemble des collectivités, des services de l'État, et le fonds de carte OpenStreetMap, et pas le fonds de carte de l'Institut géographique national. C'est-à-dire que depuis plus de 10 ans, les contenus mis sur OpenStreetMap sont d'une meilleure qualité que celle de l'IGN. Et donc tout ça, pourquoi ? Parce que, je dirais, il y a une certaine efficience à coopérer, et que lorsque la ville de Brest donne son fonds de carte à OpenStreetMap, eh bien, les habitants ou des associations peuvent rajouter des escaliers dans les rues pour faire en sorte que les personnes qui ont des problèmes de mobilité sachent que dans cette rue-là, il y a un escalier qui sera peut-être compliqué à passer, ce qu'on ne peut pas faire sur IGN. Vous n'avez pas la possibilité de mettre vous-même des informations sur ce fonds de carte. Sur cette coopération avec le numérique, eh bien, on peut dire que le numérique a produit une certaine renaissance des communs. C'est-à-dire que les communs, ce sont ressources qui sont partagées au sein d'une communauté avec des règles de gouvernance qui sont propres à cette communauté. L'exemple le plus simple, c'est un jardin partagé. Et le jardin partagé va récolter des légumes, et la façon de répartir les lopins de terre, la façon de répartir les légumes va varier d'un jardin à l'autre. Et c'est la communauté qui décide de cette organisation. Et dans le numérique, lorsque vous produisez quelque chose, un article scientifique, un cours, vous pouvez le mettre à la disposition d'autres personnes et vous gardez votre objet. Et donc le numérique se prête bien effectivement à un partage plus large des ressources. Cette notion des communs donc a été développé par Eleanor Ostrom, un prix Nobel d'économie, et vous avez ici dans ce transparent un peu quelques règles sur les communs. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que les communs doivent avoir aussi une finalité, d'un intérêt collectif, d'une justice sociale, de transition écologique et de partage des connaissances. S'il s'agit simplement de gérer des choses ensemble, mais qu'il n'y a pas cette finalité-là, eh bien, c'est une gestion collective, mais ça ne rentre pas dans le cadre des communs. Donc, je ne vais pas me détailler là-dessus, parce que le temps passe, et puis je vais avoir pas mal d'autres choses à indiquer. Et je dirais, les communs, avec de nombreux travaux universitaires, sont bien documentés. Aujourd'hui, en France, il y a une trentaine de thèses autour des communs qui sont en cours. Et il y a un pad d'ailleurs qui répertorie un peu la liste de ces thèses que je pourrais mettre en lien si certains d'entre vous sont intéressés. Et dernier élément de cette introduction de la coopération ouverte, c'est la notion de compostabilité. Dans notre monde en crise écologique, on se rend compte qu'il est nécessaire maintenant de peut-être essayer de réparer un objet avant de le jeter, de limiter ses déchets. Et de faire en sorte donc que cette notion de réutilisabilité se développe. Mais qu'en est-il des idées ? Aujourd'hui, lorsqu'un prof part à la retraite, les 30 années d'enseignement qu'il a pu faire, tous les supports de présentation qu'il a pu faire, finissent dans son tiroir. Rien n'est réutilisé. Si vous connaissez des exemples de profs qui a une production compostable, je suis tout à fait preneur pour essayer de la mettre en avant. Mais la pratique courante, c'est que quand quelqu'un termine sa carrière, c'est terminé. Tout ce qu'il a fait meurt. À part ceux qui ont écrit des livres, etc., qui vont rester. Mais toutes les productions de cours, tous les travaux de ses étudiants, les centaines de mémoires, les dizaines de thèses qu'il a pu encadrer, si c'est dans le supérieur, en général, eh bien, tout ce travail qu'il a pu développer n'est pas partagé, n'est pas réutilisé. Et donc, là, c'est une invitation à ce que dans le monde des projets et dans le monde des idées, on puisse effectivement réfléchir dès le départ du projet à la façon dont les éléments qui vont composer le projet puissent être réutilisés. Et là, donc, vous avez un article référence dont le papa est ici, alors, avec Romain, qui explique un peu cette compostabilité. Et donc, dernier exemple, dans l'association à laquelle j'ai participé, VECAM, qui a introduit la notion des communs en France, il y a 2 ans, cette association s'est arrêtée et donc a pris le temps de composter son existence. Et donc de faire en sorte que la trace des travaux qu'elle a pu réaliser pendant 20 ans soit conservée et accessible aux étudiants plus tard qui voudraient étudier un peu cette notion des communs. Donc là, c'est une invitation à ce qu'effectivement, on réfléchisse aussi que nous sommes, nous, comme l'ensemble de la planète, des êtres vivants, nous allons mourir un jour ou l'autre. Et qu'est-ce qui va rester de ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on accepte que ce qu'on fait soit réutilisable par d'autres ou pas? Et pourquoi ne pas le faire? Et cette coopération ouverte, on la retrouve dans beaucoup de secteurs que j'ai mis ici, les tiers-lieux, tout ce qui est remix, tout ce qui est territoire en transition, économie circulaire, innovation publique, intelligence collective, etc. Un petit mot avant de passer à la suite aussi sur la différence entre coopération et collaboration. Donc sur ce champ-là, moi je m'appuie un peu sur le travail qui a été réalisé par Ejbieta Sanoshka, qui a fait sa thèse sur l'étude des compétences collaboratives à travers les personnes qui ont été formées par la formation Animacop. Et si on définit la collaboration au sens de travailler ensemble, dans la collaboration, il y a l'idée de pratiques un peu plus horizontales, alors que dans l'idée classique de coopération, on ne parle pas forcément là de coopération ouverte, il y a une organisation où les gens s'organisent avec une répartition des tâches. Un exemple classique de coopération, c'est une équipe à l'hôpital avec le médecin, les infirmières, les aides-soignantes, les AESH. Mais je dirais que la coopération n'est pas très horizontale. Il y a des rapports de pouvoir très forts. Donc la collaboration, ça va être plus horizontale. La coopération, ça va être très, très variable. Et comme dans la littérature scientifique citée par Ejbieta, il y a vraiment l'utilisation d'un mot à la place de l'autre, selon les soubassements idéologiques ou intellectuels ou l'histoire de chacun. Moi, je parlerai en fait de coopération ouverte, c'est le titre ici. Et par contre, pour ce qui est des compétences, on parlera de compétences collaboratives. Donc, les deux mots sont employés de façon très très proche, les compétences pour collaborer et des actions de coopération, sachant que moi, je parle essentiellement de coopération ouverte. Je dirais la coopération au sein de l'hôpital, qui fait l'objet de nombreuses études, ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui de la présentation. Un petit aparté qui vous concerne peut-être un petit peu moins, c'est, je dirais, un peu le bilan que moi j'ai pu tirer de mes 19 ans d'élu sur la ville de Brest, où j'ai pu me rendre compte en fait de changements de posture qui permettaient justement de développer cette coopération. Donc les trois que je vais un peu citer avec quelques exemples, le faire avec, être en attention et donner à voir. Sur le faire avec, c'est vraiment quelque chose d'important parce que dans une collectivité locale, souvent les élus et les services mettent en avant ce que eux font, mais pas ce que font les gens. Et l'exemple que je donne souvent sur le faire avec, c'est ce qui s'est passé sur le numérique quand je suis arrivé à la ville de Brest. Le Internet, dans les années 95-97, démarrait tout juste. Et donc, il était important, utile, de pouvoir montrer aux gens ce que Internet pouvait faire. Et donc, pour ça, on a mis en place des points d'accès public à Internet, des PAPI. Et je dirais, il n'y avait pas de délégation numérique au départ sur la ville, eh bien, il fallait faire avec les gens. Et donc, ce qui a été mis en place, c'est en fait la possibilité qu'un équipement de quartier... Merci. Un centre social, une bibliothèque puisse être un lieu où des personnes puissent découvrir Internet en étant accompagnées. Et petit à petit, on a proposé à tous les lieux de quartier sur Brest de devenir PAPI. Et il a fallu du temps long. Il a fallu 10 ans pour que le dernier centre social deviennent point d'accès public à Internet. Mais en 10 ans, tous les équipements de quartier étaient point d'accès. Si bien qu'on en avait 100 dans la ville, 110 même, dans une ville de 150 000 habitants, qui à l'échelle de Marseille, vous faites la multiplication, ça fait 500 ou 600. Et donc, chaque habitant avait un lieu où il pouvait découvrir Internet à moins de 400 mètres de chez lui. Et donc, les enseignements que je tire de cela, c'est que le faire avec, c'est du temps long, mais ça implique les gens. Et du coup aussi, ça veut dire que chaque structure y va à son rythme lorsqu'elle est prête. Et du coup, ça veut dire que ces questions du numérique sont aussi prises en compte par chaque structure. Donc, ça se diffuse dans la ville. Le deuxième élément, c'est être en attention. C'est sur n'importe quel sujet, beaucoup d'initiatives sont prises par des habitants, par des associations. Mais dans les sites municipaux, vous ne trouvez en général que les actions qui sont menées par la collectivité, financées par la collectivité. Être en attention, c'est justement reconnaître que le rôle d'une collectivité, c'est de favoriser les initiatives, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des personnes et des structures. Pour ça, on a mis en place sur Brest un appel à projet qui a la particularité que tous les projets sont retenus. Depuis 15 ans, c'est un appel à projet où aucun projet n'a jamais été refusé. Les gens savent que quand ils prennent 2 heures pour décrire leur projet et l'envoyer, ils sont sûrs d'être aidés. Et donc ça marche comme ça depuis 15 ans et il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas un doublement du nombre de projets. Pourquoi ? Parce que la ressource limitative n'est pas le budget de la ville là-dessus, même si le budget n'est pas énorme. La ressource limitative dans les faits, c'est l'envie de s'impliquer. Déposer un projet, c'est dire « je vais faire ça » et j'ai besoin d'un coup de main pour faire mon projet. Mais chaque année à Brest, on a entre 30 et 50 projets, en général 40-50, qui sont développés et c'est très bien comme ça. Mais on n'a pas un passage à 100 ou 200 projets. Donc ce qui importe dans cette démarche, c'est de dire « on est prêt à vous aider, dites que vous avez envie de faire, et nous, on va soutenir votre envie de faire. » Donc ça, c'est quelque chose de très simple, mais qu'on n'a pas beaucoup réussi non plus à dupliquer ailleurs, et ça marche. L'intérêt, c'est qu'il y avait un autre appel à projet dans la ville, sur les lycées et collèges, et moi je demandais, où sont les projets? Est-ce qu'on peut les voir? Ben non, m'a dit un proviseur, parce que si je décris mon projet, le lycée d'à côté va faire pareil. Donc d'un côté, vous avez une logique de compétition où on retient 15 projets sur 150, et dans l'autre côté, vous avez une logique de coopération où tous les projets sont publiés et ont aussi pour but d'inciter ceux qui n'ont pas fait à faire des choses qui peuvent les inspirer. Le troisième élément, c'est le donner à voix. C'est toujours pareil, dans la mesure où les gens font des choses intéressantes, que vous les aidez, eh bien, faire en sorte que ce qui est fait soit visible. Et donc, sur la ville, on a développé une dizaine de sites contributifs où tout le monde a le droit d'écrire. Sur l'égalité femmes-hommes, sur le numérique, sur l'action sociale, la solidarité internationale, les mobilités, etc. La participation des habitants. Les acteurs qui souhaitent décrire une action peuvent écrire. Et en l'espace, pareil, le premier site à Tirebrest, c'est 2003. Donc en l'espace d'à peu près 20 ans maintenant, aucun problème n'est apparu. Nous avons publié des dizaines de milliers d'articles. L'idée que les gens vont écrire des choses méchantes ou vont critiquer l'action de la ville, etc., ce n'est pas la réalité des choses. Mais pour autant, aucune ville en France n'a accepté d'ouvrir l'écriture aux habitants. Pourquoi ? Parce que dans notre culture, à l'école, on a appris à cacher notre copie. Et donc, on est dans une logique de peur, d'appréhension de ce que les autres peuvent écrire. Alors qu'en fait, si vous avez une charte éditoriale qui indique que le but est de décrire les initiatives, de les mettre en valeur, etc., il n'y a pas de problème. Les gens qui vont prendre la peine de raconter ce qu'ils font vont le faire en positif de leur action et ça fonctionne. Alors, il y a d'autres séries d'actions qui ont été mises en place pour outiller avec des ateliers, donc juste pour donner un ordre de grandeur, faire dans une ville un atelier une fois par semaine, c'est une demi-journée d'atelier et une demi-journée de préparation. Le coût équivalent temps plein est de 20%. Pour l'équivalent d'un temps plein de 20% sur une ville, vous pouvez faire un atelier toutes les semaines, pour un équivalent temps plein, 5 fois plus, un atelier tous les jours. Donc, si une ville veut favoriser le développement des initiatives, qu'elle fasse un atelier tous les jours pour équiper les gens, les outiller, leur apprendre à écrire, à publier, par exemple, ou autre chose, c'est très peu cher. Mais pareil, ça existe encore, malheureusement, très peu. Et ce qui a été l'élément structurant sur Brest, c'est les formations Animacop, dont le papa est ici, aussi, ah, les papas, c'est justement de former les gens à la coopération. Parce qu'à l'école, en général, on n'a pas appris à coopérer, et la coopération, ça s'apprend. Et donc, on a mis en place, pareil, depuis toujours une bonne douzaine d'années, je n'ai pas le chiffre exact, et aujourd'hui, il y a 250 personnes sur Brest qui ont été formées sur des formations de 100 heures à la coopération. Résultat, on a tout un terreau maintenant de gens qui partagent des valeurs, celles que j'exprime ici, sur la coopération, et qui du coup se connaissent, échangent entre eux et coopèrent entre elles. Alors, pour explorer un peu ces compétences, donc, il y a eu le travail de thèse d'Eschbieta, et je vais décrire assez rapidement les quelques compétences qui favorise la coopération et la collaboration, et peut-être aussi quelques exemples un peu qui vont illustrer ça par rapport à des interviews. Donc il y a 2 ans, un petit peu, 3 ans, un petit peu avant le Covid, quand je suis parti à la retraite, j'ai commencé à faire des interviews de quelques dizaines de personnes sur justement qu'est-ce qui les amène à coopérer. Si vous avez la curiosité, vous trouverez l'interview de... Oh là, plus que 5 minutes. L'interview de Bénédicte et de Laurent, par exemple. Donc ça, c'est les mots-clés hein, qui sont issus des interviews. Alors, là, j'ai déjà parlé de ça. Juste, alors, très rapidement, parce que je ne vais pas y arriver autrement. Si on regarde, je dirais, une coopération en acte, il y a l'antécédent, il y a le processus et les résultats. Voilà, ce sont les 11 compétences charnières qui ont été relevées à travers donc, la thèse d'Eschbieta et les dizaines d'interviews qui ont été faites. Antécédent, l'état d'esprit collaboratif. On ne peut pas faire coopérer des gens qui n'ont pas envie de coopérer. C'est banal de le dire, mais c'est vrai, une vraie réalité. On a eu plusieurs fois dans les formations Animacop des gens qui venaient voir là, en curieux, mais qui n'avaient pas envie de changer leur pratique. Et ça n'a servi strictement à rien. Un élément important dans le processus, c'est de co-concevoir la structure du projet. C'est-à-dire pas faire quelque chose et puis dire aux gens, venez sur mon projet. Et dans le résultat, avoir le souci du commun. C'est-à-dire faire en sorte que ce qui est produit puisse être réutilisé par d'autres. Donc là, je suis un peu désolé, mais le temps fait que je ne peux pas développer tous ces éléments-là. Je vais juste les reciter sur quelques interviews. L'état d'esprit collaboratif, par exemple, je donne juste l'exemple de Monique Argouache, qui s'occupait de dispositifs relais, c'est-à-dire des gamins qui sont en difficulté au collège, et qui les a mis en relation avec des résidents avec les résidents d'une résidence de personnes âgées, des gens qui avaient plus de 80 ans, et les jeunes en difficulté sont devenus les enseignants pour ces personnes très âgées. Et elles ont été jusqu'à remettre des diplômes aux personnes âgées qui étaient capables d'envoyer un mail avec des photos à leur famille. Et donc c'était assez rigolo de voir des gens qui étaient en hyper échec scolaire qui signaient des diplômes remis à des personnes. Co-concevoir la structure du projet, c'est l'exemple de DOCA Brest, un réseau de documentalistes qui a été développé par Fanny Saint-Georges et par une bibliothécaire sur Brest, mais j'ai pas le temps de... Ou le projet Transiscope, vous pourrez voir après. Sur le souci du commun, je sais pas si j'aurai le temps de développer. Non, on va passer. Allez. Alors, juste en passant quelques freins à la coopération. Le non-alignement, c'est-à-dire les gens qui disent coopérer, mais qui ne coopèrent pas. Ou enfin, qui prennent la coopération, mais quand vous allez voir, ou les communs, et quand vous allez voir leurs publications, elles sont interdites de réutilisation. Donc là, il y a quelque part, il y a un os quelque part. Si vous voulez faire développer les communs, il faut que vous-même vous pratiquiez les communs. L'ego sans partage sincère, c'est difficile de coopérer si vous ramenez tout à vous. La non-reconnaissance, ce qui est malheureusement souvent le cas dans les collectivités, il faut reconnaître l'action des personnes. l'organisation des structures, qui sont souvent en silos hiérarchiques, freine aussi. Quelques facilitations, l'écoute sincère, la bienveillance, la confiance, la transparence, la convivialité. Donc là, c'est quelques éléments. Encore une fois, il y a quelques articles dans le bio que j'ai mis en ligne qui expliquent un peu ça, qui sont un résumé explicatif un peu de la thèse des Gbeta. Et le dernier point sur lequel je vais essayer de garder 5 minutes, en dépendant peut-être une ou deux minutes, c'est justement que toutes ces pratiques de coopération que j'ai pu développer avec beaucoup de plaisir sur Brest, quand est arrivée la crise, eh bien, Laurent et moi, on a été sollicités par le CNFPT, l'organisme de formation des personnels territoriaux, qui ne savait plus très bien comment faire dans cette période où les gens ne pouvaient plus aller à leur bureau. Et on leur a proposé de créer un espace collaboratif et qui s'est appelé Riposte Créative Territoriale, permettant aux gens de partager un petit peu des contenus, leurs réflexions, leurs problèmes et de faire en sorte que les gens puissent coopérer ensemble. Et ce Riposte Créative Territoriale qui continue encore aujourd'hui et qui est porté non pas par le CNFPT mais par la direction innovation du CNFPT, donc un petit sous-ensemble de cette immense structure, travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle les cercles d'apprentissage, c'est-à-dire comment on peut faire une formation non pas avec des gens qui viennent apporter des savoirs, mais simplement en réunissant un groupe de 15 personnes et en favorisant l'échange des savoirs et l'échange des pratiques entre ces personnes. Donc tout ça, c'est aussi documenté un petit peu sur le site Riposte Créative Territoriale. Et comme cette idée nous paraissait intéressante, eh bien moi je l'ai dupliquée en Bretagne avec Riposte Créative Bretagne. Et donc, on a proposé aux gens qui réagissaient en positif par rapport à la crise du Covid de raconter leurs expériences. Et donc, pendant cette crise du Covid, on a eu 500 fiches initiatives qui ont été renseignées en Bretagne. Et comme j'étais aussi enseignant du supérieur, on a fait Riposte Créative Pédagogique pour essayer justement aussi de renseigner des initiatives sur comment on pouvait prendre en compte l'hybridation nécessaire parce qu'il fallait enseigner à distance. Et Riposte Créative Pédagogique continue aussi à exister aujourd'hui. On a produit à peu près une trentaine de webinaires sur le sujet. Et toutes ces initiatives sont, je dirais, complètement bénévoles. C'est-à-dire c'est quelques personnes qui les portent. On n'a pas trouvé, à quelques contre-exemples près, en Gironde en particulier, de collectivités qui portaient ces ripostes. C'est simplement des personnes qui s'organisent pour faire en sorte d'apporter une réponse à la crise. Et pendant le Covid, on a vu que ce soit les couturières, les fabricants de glissières dans les Fab Labs, les gens au pied des immeubles qui s'organisaient pour faire les courses ensemble, énormément de personnes qui essayaient de recréer de la solidarité face à la crise. Et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'on a tous nos ripostes ont basculé de la crise du Covid à la crise climatique qui nous concerne tous. Et donc aujourd'hui, sur Riposte Créative Pédagogique, je dirais le sujet principal, c'est effectivement comment on prend en compte ces questions d'enseignement de la transition dans l'enseignement supérieur francophone, comment on forme les étudiants à ces questions-là, et donc on organise des webinaires, on a déjà plus d'une centaine de fiches initiatives et ressources qui décrivent effectivement des initiatives dans des universités, des ressources mises à disposition pour que cette question fondamentale soit prise en compte. À quoi ça sert de former des étudiants dans un monde qui ne sera plus du tout le même dans 20 ans ou dans 30 ans si on ne prépare pas effectivement à ce monde qui sera différent. Et sur Riposte Créative Bretagne, eh bien, on vient de lancer, là, il y a quelques mois, Riposte Climat Bretagne. Il y a déjà une centaine d'initiatives autour du climat qui sont recensées. Et donc, il y a un petit projet là qui tourne actuellement aussi de faire un Riposte Énergie Citoyenne pour faire en sorte que les milliers de personnes qui installent des capteurs solaires chez eux puissent effectivement témoigner de leur expérience et aider d'autres aussi à franchir le pas. Parce que comme il a été dit dans l'introduction, on est dans un monde où il y a beaucoup, je dirais, de changements d'attitude personnelle face à la crise climatique, mais peu du point de vue de l'État, du gouvernement et des lois. Et donc, dans cette démarche de coopération ouverte, on essaye de privilégier la mise en réseau de donner à voir tous ceux qui s'impliquent et d'essayer de faire en sorte que ça devienne une force collective qui incite les collectivités et les gouvernants à réagir et en particulier sur Riposte Créative Pédagogique faire connaître tout ce qui se fait d'intéressant dans les universités pour que d'autres s'y mettent également et que cela diffuse. Donc on a aussi écrit un petit texte qui s'appelle « Coopérer pour une planète habitable », qui était aux rencontres de Tournai en 2019, pour justement essayer d'expliquer que face aux crises, la coopération est quelque chose qui facilite justement la riposte, la réaction, et qui peut ralentir ce changement climatique. Donc quelques exemples que j'ai déjà cités, les cercles d'apprentissage au CNFPT, qui sont de nouvelles façons d'apprendre, qu'on aimerait bien voir diffuser un petit peu. La monnaie temps Utilo. Donc Utilo, c'est un guide de la facilitation. Comment on peut faciliter des réunions, comment on peut faciliter un projet. Quelques dizaines de personnes, des services publics locaux en Bretagne et des collectivités territoriales, se sont mis à créer un guide qui s'appelle Utilo, qui a été téléchargé 5000 fois déjà, en moins d'un an, et qui explique différentes techniques de facilitation. Et comme ils ont vu le succès, effectivement, de ce guide, l'intérêt pour la facilitation, ils sont maintenant en train de lancer l'expérimentation d'une monnaie temps. C'est-à-dire comment une personne qui sait animer un forum ouvert à la ville de Rennes pourra aider quelqu'un de la direction des routes, qui à son tour pourra, sur une autre technique, aider quelqu'un de la ville de Brest ou du département du Finistère, et ainsi de suite. Donc c'est un peu le principe des réseaux d'échange de savoir, de faire en sorte que les gens donnent 3 heures de temps et en échange, ils bénéficient de 3 heures de temps de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une expérimentation aussi intéressante de coopération ouverte. Sur l'interopérabilité, c'est comment ce que je fais localement peut servir à d'autres. Par exemple, toutes les fiches initiatives de Riposte Créative Bretagne sont reprises sur le site Transiscope avec 30 000 initiatives en France. La convergence des transitions, qui a été le thème du forum des usages, et je vous invite à voir une excellente vidéo d'un pompier qui raconte effectivement l'importance de rapprocher le monde de l'environnement, le monde du libre et le monde des solidarités. Et donc, c'est un petit peu tout cet écosystème un peu de la coopération ouverte qui est en émergence, que j'essaye un peu de faire connaître et donner envie aux gens de coopérer, avec vraiment ce constat que face aux situations de crise, la coopération s'impose. Parce qu'effectivement, quand l'État disait « il n'y a pas besoin de masques », que les gens savaient bien qu'il y en avait besoin et que c'est les couturières qui le fabriquaient parce que l'État ne savait pas le faire, ce sont les gens qui l'ont fait. Et donc la coopération ouverte, c'est cette dynamique-là, effectivement, de faire en sorte que d'être en confiance avec les gens et de favoriser. Et donc on essaiera un petit peu de regarder au cours de ces 3 jours comment on peut aussi, dans votre réseau, favoriser cette coopération ouverte. J'ai quelques idées, mais là, j'ai plus trop le temps de les aborder. Donc on pourra échanger et de voir ensemble ce qu'on appelle les premiers plus petits pas possibles pour justement mettre en œuvre cette coopération et faire des multiples petites expériences irréversibles de coopération. Merci.
Coopérative, est-ce que vous avez observé des particularités avec ce genre de profil vis-à-vis d'autres types d'acteurs sociaux avec qui vous avez été amené à travailler ?
Je vois pas trop de différence entre des universitaires ou des élus ou responsables de services ou même des responsables associatifs. Il y a des champs dans lesquels la coopération avance davantage. Pour ce qui est de l'université, il y a tout le monde de l'informatique. Pourquoi ? Parce que le logiciel libre a une place importante. Il y a les mathématiques, parce qu'il y a aussi une histoire un peu de la coopération en mathématiques avec aujourd'hui un site qui s'appelle Césamath, où il y a 1 million de personnes inscrites sur les productions de cours d'exercices de mathématiques. Et puis il y a aujourd'hui tout ce qui concerne la transition. La plupart des sites qui concernent cette question, que ce soit le SIF Project ou des projets plus récents comme Roselfax et d'autres, sont des sites qui s'inscrivent dans le partage. C'est-à-dire quelque part, les gens qui se sentent concernés par l'urgence climatique, ont intériorisé le fait que si Ça ne sert à rien de réinventer les choses chacun de notre côté, il y a urgence à coopérer. Donc voilà, ça se situe un petit peu plus là, mais ça a été un long combat, ne serait-ce que pour faire en sorte que les publications puissent être partagées. Donc ça a été introduit avec le travail qu'on a mené avec Valérie Peugeot et quelques autres au Conseil national du numérique, mais intégrer dans la loi qu'une publication que vous faites chez Elsevier, Springer ou autre puisse être réutilisée par quelqu'un, ça n'a pas été évident. Donc aujourd'hui, c'est permis, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir que 6 mois après une publication dans les sciences dures et 1 an dans les autres sciences, vous avez le droit, quel que soit le copyright que vous avez signé, de mettre votre publication sur HAL. Un certain nombre d'universités maintenant encouragent fortement, dont Aix-Marseille, je crois, la publication sur HAL. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'était pas gagné. Et moi, je sais que quand j'étais responsable, nous, on avait dû arrêter les abonnements à Elsevier parce que pour une école d'ingénieur, c'était 100 000 euros par an. On n'y arrivait pas. Donc la coopération, pareil, dans le milieu des associations, ben, c'est très variable. Vous avez y compris dans l'éducation populaire toute une série d'associations qui partagent en interne et pas avec d'autres et qui n'autorisent pas la réutilisation de leur contenu. Et vous en avez d'autres, comme les petits débrouillards, qui sont très, très avancés sur le partage. Donc là, je dirais qu'il y a une culture très variable d'un endroit à l'autre.
Et surtout qu'en fait, il n'y a pas forcément la même culture du partage chez toutes les communautés scientifiques. J'imagine, en sciences de l'information, ça se matérialise plutôt par le partage des données de la recherche. Alors peut-être un anthropologue, la coopération va plutôt se manifester dans ses relations avec les acteurs de terrain, les informateurs, etc. Est-ce que vous avez pu observer ces différences de culture du travail en commun ?
Le partage des données de la recherche, c'est vraiment récent. C'est très récent. Donc ça serait bien que ça se développe, et là, ça concerne l'ensemble des sciences. Et je ne suis pas certain que dans les sciences dures, ce soit effectivement encore le cas aussi.
Je ne sais pas si...
Donc, alors, pour les questions...
Et Laurent pourrait compléter, parce qu'il côtoie aussi beaucoup de trucs différents de coopération. De savoir s'il a trouvé des différences ici et là. Par contre, on a des différences un peu culturelles dans les régions. Il y a des régions où c'est plus compliqué de coopérer.
C'est plus facile en Bretagne, il paraît.
Alors, c'est plus facile de coopérer en Bretagne parce qu'il y a les coopératives agricoles, les coopératives maritimes, etc. Mais c'est de la coopération non ouverte. Hein. C'est-à-dire on travaille avec d'autres, entre des villes différentes, entre des couleurs politiques différentes. Mais je dirais la coopération ouverte en termes de partage, elle est aussi dure dans les collectivités locales en Bretagne et dans les universités en Bretagne qu'ailleurs, malheureusement.
Bonjour, merci pour la présentation. Et moi, j'ai une petite question, parce que vous avez un peu insisté sur votre gestion locale au niveau de presse de France, Bretagne. Et donc, je me demande, est-ce que cette gestion, peut-être appliquée dans les autres collectivités plus grandes, comme par exemple les collectivités voisines. Est-ce que vous avez pensé à faire un transfert de compétences ou bien de savoir, bien ce retour d'expérience dans les autres collectivités voisines? Et quelles sont les limites également de cette gestion un peu libre, un peu participative, inclusive, comme vous voulez? Merci beaucoup.
Alors, il faut savoir que Brest est une ville où, quand j'ai été élu la première fois, la moitié des gens travaillaient à l'Arsenal. L'Arsenal, c'est la marine nationale, c'est pas du tout une culture collaborative. Donc le milieu n'était pas du tout favorable. Simplement, je pense vraiment que chacun a des espaces de coopération. Alors, moi, je l'ai développé sur le numérique, d'autres peuvent le développer sur la solidarité, sur l'environnement, etc. On peut chacun faire ce qu'on appelle les pas de côté, c'est-à-dire trouver un endroit où on peut développer la coopération. Et ce qu'on a fait à Brest n'est pas du tout spécifique à Brest. Et donc, c'est tout à fait faisable dans un département, dans une région. Il y a quelques exemples en France aussi de coopération ouverte qui se mettent en place. Ce que fait Julie Chabot, par exemple, en Gironde autour d'Agenda 21, est tout à fait un peu dans le même esprit. Donc, je pense qu'il n'y a pas... Il faut vraiment y mettre du temps et de l'énergie. Hein. J'insiste un peu sur le fait que ce que je raconte, je l'ai raconté après 19 ans de mandat. Ça ne s'est pas fait en 6 ans ni en 12 ans. Il faut effectivement du temps parce que les changements de posture de la coopération, c'est du temps long. Parce que c'est des changements humains et ça ne se fait pas immédiatement. Et pareil actuellement dans le milieu universitaire autour question de transition. Je dirais le point fort actuellement, moi, que j'identifie, c'est autour de Grenoble, des écoles d'ingénieurs de Grenoble et de l'université de Grenoble, où il y a vraiment tout un maillage de personnes qui, à travers le projet Anthropocène-Fac, sont en train de développer. Et toujours pareil, c'est quand tu as un petit noyau, automatiquement, ça cristallise des choses qui font envie à d'autres, et les choses se développent comme ça. Donc, tu as quelques endroits, l'UTC Compiègne également, où effectivement les pratiques collaboratives se développent, ici au MPED également. Mais c'est pareil, si on cherchait l'ensemble des laboratoires en France, c'est pas toujours évident d'en trouver beaucoup d'autres, et surtout d'autres, des gens qui racontent. Ça, c'est un point que je voudrais insister. Il est important aussi de donner à voir ce que vous faites. Par exemple, de raconter comment vous avez organisé votre colloque, pourquoi la coopération a été choisie, et de faire en sorte que ce que vous produisez, les contenus, soient publiés. Je crois que c'est vraiment important d'avoir à côté de la publication académique aussi des publications qui racontent un peu les parcours des gens, leur façon de travailler, etc., et qui sont une autre forme de publication. On n'a pas appris à l'école à publier, et je pense que c'était un des grands axes qu'on développait au Conseil national du numérique dans le rapport sur l'éducation, faire en sorte que dès le primaire, les enfants apprennent à publier. Aujourd'hui, vous avez dans je ne connais pas d'INSPE en France, les INSPE, c'est des écoles de formation de professeurs qui apprennent aux futurs professeurs à publier. Et si vous voulez avoir un exemple, il y a Jean-Michel Lebeau qui a lancé un projet maintenant depuis 10 ans qui s'appelle iJoie, où il propose à ces lycéennes de première littéraire à décrire sur les œuvres qu'elles étudient. Et donc, il y a plusieurs milliers de visiteurs par jour sur ce blog-là. Ça donne confiance aux lycéennes. Et c'est vraiment un bel exemple qui montre que c'est dans de la formation littéraire, avec le programme officiel du gouvernement, du ministère, il y a la possibilité d'ouvrir des espaces de publication. Donc moi, je vous invite beaucoup à regarder ce que vous publiez, ce que vous pouvez publier, ce que vous pouvez raconter. C'est vraiment une expérience intéressante, et c'est pour moi un élément structurant de la coopération, de raconter un peu ce qu'on fait. Et ce qu'on développe justement avec l'outil YesWiki, c'est que comme écrire un article sur Attiré Brun sur un site contributif, c'est assez long parce que ça prend 2 heures, 3 heures, 4 heures, remplir sur un formulaire pour simplement décrire une initiative, partager des ressources bibliographiques, etc., c'est beaucoup plus rapide. Et donc, ces outils-là sont facilitateurs parce que la marche à franchir est un petit peu plus petite.
On a ensuite une question de Sandrine. Bonjour à tous. Merci de passer la parole. Je suis Sandrine Andon, je viens du Cameroun, doctorante à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Ma question, je vous remercie déjà pour votre présentation qui m'a donné beaucoup d'idées, mais qui m'est arrivé à me poser la question que la coopération telle que vous l'avez présentée, surtout en ce qui concerne le plan sur les compétences pour la favoriser, les compétences et les freins. Du coup, j'ai l'impression que telle que présentée là, la coopération, ce type de coopération n'irait pas vraiment au niveau un peu plus grand que celui sur lequel vous avez basé vos études, c'est-à-dire au niveau international. Je parle là de la coopération entre les États. Parce que je prends juste un exemple. Là, l'une des compétences est être bienveillant, humilité, un égo modéré. On voit très mal les États avoir ce genre, afficher ce genre de comportement. Et même si on a l'impression qu'ils affichent, mais au fond, parfois, ce n'est pas souvent ça. Et du coup, la question que je me pose, est-ce que, peut-être pas vous, peut-être quelqu'un d'autre dans l'Assemblée, quel type de coopération on pourrait, quel type de compétences on pourrait envisager, ou bien on pourrait souhaiter dans une coopération, autant pour moi, entre des États, pour qu'elle soit vraiment égal et pouvoir et amenuiser justement la relation de domination qui naît souvent entre dans ce type de coopération, surtout lorsqu'il s'agit des États, une coopération nord-sud. Merci beaucoup.
C'est vrai que moi j'aborde des choses un petit peu autour de ce que je fais, de ce que je connais, parce que il faut pouvoir aussi faire ce qu'on dit et montrer des exemples concrets. Et par exemple, en France aujourd'hui, vous avez des appels à projets du ministère de l'enseignement supérieur ou de l'éducation. Et quand il y avait un appel à projet sur la pédagogie, il y avait 150 réponses de gens qui pensaient faire des choses intéressantes. 15 sont sélectionnés et 135 sont mises dans les tiroirs. Quand j'ai proposé de les publier sur l'innovation pédagogique, on me l'a refusé. C'est-à-dire que les gens qui sont au gouvernement préfèrent que les choses restent dans les tiroirs plutôt qu'elles soient rendues visibles, alors que les gens ont fait l'effort de dire ce que je fais peut être intéressant pour d'autres. Donc le premier changement, ce serait effectivement que déjà, à l'échelle locale, régionale et nationale, on fasse confiance et on donne à voir les choses. L'appel à projet sur les Fab Labs, il y a pareil, 15 projets sélectionnés sur 150, jury secret, délibération secrète, et 135 projets restés secrets. Donc qu'on commence par changer un peu ces pratiques et que nous, à notre échelle, on donne à voir et qu'on essaie de faire en sorte que dans nos établissements, on puisse partager. Sur l'université d'Aix-Marseille, par exemple, il n'y a pas de portail des cours ouverts. Les enseignants qui veulent partager leurs cours n'ont pas un endroit où ils peuvent montrer leurs cours et faire en sorte que d'autres puissent le réutiliser. Dans l'école où j'étais, sur 400 cours en ligne, 40 étaient ouverts au monde extérieur, 10%. Je ne pense pas qu'il y en ait plus. Et si vous avez un millier d'enseignants à l'université d'Aix-Marseille, ça fait 100 enseignants, donc des centaines de cours qui pourraient être partagés. Et donc ça peut changer. Et l'université, c'est le conseil d'administration qui décide. Donc le conseil d'administration, il est élu. Il est élu par vous. Donc c'est une question à poser. Pourquoi les cours ne sont pas ouverts? Pourquoi le cours de l'enseignement sur la sociologie d'Aix-Marseille ne pourrait pas intéresser un étudiant de Rennes?